avoir un kink.
Ouais, j'avoue, je sais pas, peut-être à la limite un peu de hard de temps en temps, ça dépend, je trouve c'est bien d'alterner les deux. On reste quand même sur du truc gentil, ça peut être tirer les cheveux, des fessées.
Ouais, à la limite le SM mais très basique. Genre.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais.
Bonjour à toutes et à tous. Je dis souvent qu'on est excité à l'idée de vous retrouver dans Zoom Zoom Zen, mais là, pour la première fois, allez, disons la deuxième, avec la fois où on avait reçu Lisa Del Sierra, on est excité au sens propre. Manon a les mains moites, Quentin les tétons qui pointent. Pour la première fois de l'histoire de cette émission, Cyril a lu en entier le livre d'un invité. Quant à moi, je suis à deux doigts d'avoir envie de faire l'amour à ma femme autrement qu'en position du missionnaire. C'est dire la folie, la folie qui flotte sur France Inter en ce 14 novembre. Et c'est normal, car Quentin, aujourd'hui, c'est la journée spéciale.
La bouillarde.
Alors, le titre officiel, c'est l'amour, le sexe et les Français. Et à cette occasion, on va zoomer sur nos kinks. Nos kinks, ce sont ces petits trucs que Pierre Courade et le pape François appellent nos perversions, qui enflamment notre libido et, comme dirait Cyril, nous donnent envie de faire crac-crac. Ces kinks sont propres à chacun et l'idée aujourd'hui, vraiment, c'est absolument pas de juger. On doit respecter tous les kinks, même ceux de notre réalisateur décroissant, Ghislain Fontana. Car même si votre trip, c'est de faire l'amour à 10 dans un hangar bioclimatique du Larzac, en Birkenstock, dans un nuage d'encens, sous LSD, en respectant les cycles de Shiva pour savoir qui jouit quand et dans qui, même si vous pratiquez un tantrisme jusqu'au bout qui inclut tous les êtres vivants, y compris les chèvres, ce n'est pas sale. C'est votre kink à vous et Brigitte Bardot n'a pas besoin de savoir. Zoom Zoom Sexe, c'est parti.
Zoom Zoom Zen, journée spéciale, l'amour, le sexe et les Français. Mathieu Noël.
Jingle.
Ah ouais.
Grosse prod, jingle hein. Sexy. Bonjour Axel de Sade.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter en ce jour si spécial pour nous. Vous êtes la première dominatrice professionnelle qu'on reçoit dans Zoom Zoom Zen. Vous aimez aussi qu'on vous présente comme dominartiste politique. Vous militez pour la réhabilitation des sexualités transgressives à travers des univers joyeux, des événements ludiques et des ateliers pédagogiques. Et vous venez de sortir Kink, manuel de sexualité créative aux éditions Anne Carrière, un livre coécrit avec Meta Chiteya et illustré par Stella Polaris, richement illustré. On va y venir, vous allez nous expliquer ce que sont déjà nos kinks, comment les vivre pleinement, tant qu'évidemment ils ne tombent pas sous le coup de la loi, je le dis pour Manon et Quentin, deux fiefés coquinous que je vous présente. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça, je peux vous dire que cette émission, ils l'ont plus bossé que celle avec Pierre-Rosan Ballon.
On l'embrasse.
Ah, évidemment.
T'es sympa,
évidemment.
Pierre.
À vos côtés, Axel de Sade, vous devez sentir ces phéromones qui tournoient dans l'air comme une aura de stupre. Voici donc Manon Mariani, alias la Marianoche, qui devait se mettre à la boxe cette saison. Et finalement, elle s'est mise au dessin érotique. Elle a donc particulièrement apprécié le chapitre de votre livre intitulé « Quelques pinceaux pour éveiller les sens, Liquid Love et Nourou, ça glisse ». Manon, plus que jamais aujourd'hui, vous avez envie d'aller loin.
En vous présentant une femme qui a voulu mixer pornographie et art, et le résultat est très très hot. J'ai eu très chaud en regardant ces vidéos.
Moi, j'ai chaud d'avance. Face à vous, Axel de Sade.
On va pas le tenir.
Pour vous,
il est tout rouge.
Pour vous, un pot d'échappement est une pièce mécanique. Pour lui, c'est un objet de fantasme. Oh. Chaque fois qu'il passe à côté d'une grosse cylindrée, il a le rose aux joues. Longtemps, sa petite amie lui a demandé « Mais pourquoi tu fais l'amour avec un casque jaune ?» Récemment, il lui a avoué son kink. Pour être performant, il a besoin de se mettre dans la peau de son idole Ayrton Senna. « Ah, c'est pour ça que t'abandonnes toujours au premier virage ?» commentera perfidement cette fiancée. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants. Ils vous ont avoué leur kink.
Sachez que quand je prends le départ d'une course, souvent je la gagne. Oh. Et souvent j'ai le record du tour. Bon, allons-y.
Vous allez toujours très vite, c'est ça.
Rapide.
C'est team premier degré, là.
La pole position,
ouais. Oui. Ouais.
Et sinon, les passants dans la rue, ne les oublions pas.
Vous imaginez bien que c'est un peu timide dans la rue. On ne se livre pas comme ça. J'ai rencontré 2-3 coquinous, malgré tout, toutes générations confondues, qui vont vous faire sourire leur réaction dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Si Axel a bien bossé d'ici là, vers 16h30, vous serez en mesure de me dire ce que sont l'holophilie, le crush fétiche ou la fornifilie, sinon vous perdrez dans le Zoom Zoom Test spécial pratiques sexuelles étonnantes. Juste avant 17h, enfin un sujet qu'il maîtrise, Karim Duval viendra nous révéler ses kinks, mais d'abord, Axel de Sade, en plus de toutes vos activités, vous dirigez l'école des arts sadiens dédiée à l'apprentissage du BDSM. C'est quoi le profil des élèves dans cette école?
Alors, 80% sont des femmes.
Déjà.
Voilà. Et ensuite, j'ai de tout âge, de toute origine, sociale, ethnique, et les âges.
Et pourquoi, d'après vous, plutôt des femmes ?
Parce qu'il me semble qu'elles ont le syndrome de la bonne élève. Elles ont besoin, en fait, de tout connaître avant de se lancer dans une pratique. Alors que les hommes...
On croit savoir.
Ils croient savoir. C'est ça qui est intéressant, en fait.
On va y revenir. En bout de table, vous vous souvenez certainement de lui. Il avait fini major de sa promo à l'École des Arts. Ça devient...
T'es un bon élève.
Promotion Marilyn Manson. Son mémoire de fin d'études, d'un usage alternatif et iconoclaste du saucisson pistaché, avait été salué par la critique. Oui. Un ouvrage de référence, avait déclaré Antoine Bueno. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Antoine.
Évidemment, tu nous écoutes, surtout aujourd'hui. Alors Cyril, vous qui en avez une liste longue comme le bras, dites-nous, les kinks, d'où ça sort?
Vous allez voir, c'est amusant. À l'origine, un kink... J'aime bien l'annoncer comme ça. À l'origine, un kink, c'est un terme nautique, figurez-vous. Ça vient du néerlandais, ça veut dire enrouler une corde, et ça remonte au XVIIe siècle. A priori, donc, rien à voir avec le kink du jour, encore que la corde peut être un kink, se faire attacher, attacher l'autre, bref. Et il y a donc l'origine nautique qui a dérivé vers la sexualité, mais d'abord du côté obscur de la force, puisque l'argot américain a utilisé le terme kinky pour qualifier les pervers et les vicieux, donc plutôt un sens péjoratif.
Comment on en est arrivé là?
Eh bien, grâce à un homme au nom infernal. Accrochez-vous, il s'appelle Richard Freyer von Krafft-Ebing, lui-même. Et qui est ce brave homme? Eh bien, c'est un psychiatre austro-hongrois de la fin du 19e, début du 20e, et il est tout simplement considéré comme le père de la sexologie. En 1886, il publie Psychopathia Sexualis, livre où il définit les perversions sexuelles, et notamment le sadisme et le masochisme. Je vous rappelle qu'on est en 1886. Donc tout ce qui sort du cadre d'une sexualité dite normale est vu comme une perversion. Oui. Sans surprise, parmi ces déviances, on trouve par exemple l'homosexualité. Dans son travail, Richard Freyer von Krafft-Ebing fait aussi le lien entre douleur et plaisir sexuel, et c'est là qu'on commence certainement à s'intéresser au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quant au kink dont on parle maintenant, c'est dans les années 60 qu'il est apparu avec plus de légèreté. Axel de Sade, vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre, c'est un terme dont la modernité l'affranchit des stéréotypes et des stigmates associés aux sexualités déviantes. Alors, est-ce que c'est devenu chouette d'avoir des kinks? Comment est-ce que c'est même devenu quelque chose qu'on assume? Est-ce qu'il y a des bons kinks et des kinks bizarres? Comment savoir ce qui nous kink? Les kinks sont-ils un remède à la perte de libido? Mathieu Noël, ça vous intéresse? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Je suis tout oui. Merci Cyril. Axel de Sade, c'est quoi votre définition à vous du kink? Puisque c'est le terme qu'on a appris pour cette émission et c'est le titre de votre livre.
Oui. Alors, ce sont des désirs ou des pratiques sexuelles qui sortent de l'ordinaire, qui sortent en fait de la génitalité, donc du toucher des parties intimes, pour aller s'occuper de tout le corps et surtout le premier organe sexuel qui est
le cerveau.
Oui, c'est le cerveau.
Oh, Cyril, essayez de vous intéresser un petit peu. Hein, essayez d'être en 2024, suivez-nous quand même. Est-ce que justement, on est en 2024, est-ce que 2000 ans, on va dire, de judéo-christianisme, il y a une chape de plomb sur la sexualité? Je crois que à l'époque, dans l'Antiquité grecque notamment, il n'y a pas du tout le même rapport au corps ou à la sexualité. Est-ce que tout ça, les kinks, il y a une part de nous qui ressurgit, qui avait été engloutie, recouverte d'une chape de plomb pendant trop longtemps?
En fait, ils ont toujours existé, les kinks. Même avant 2000 ans, il y a toujours eu en fait, des pratiques sexuelles qui sortaient de la pénétration. Alors, elles ont été stigmatisées, notamment par Richard von Krafft-Ebing. Et depuis les années 80, en fait, nous ne sommes plus considérés comme des pervers nécessitant une thérapie. Et nous ne sommes plus non plus considérés comme des gens ayant une activité illégale, puisque la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît en fait l'autonomie sexuelle et le droit en fait, d'avoir des pratiques qui peuvent avoir recours à la douleur.
Le tout dans les pratiques qui incluent la douleur, c'est, j'imagine, le seul truc, c'est le consentement aujourd'hui, d'un point de vue.
C'est obligatoire.
C'est la base de toutes ces pratiques.
C'est ce qui, sinon, c'est une qualification pénale. C'est acte de torture et de barbarie, coups et blessures sur personne.
Est-ce que le kink est forcément un fantasme ou c'est deux notions différentes?
Alors, le kink regroupe aussi les fantasmes, mais on irait surtout sur des pratiques. Et il y a des pratiques qui ne sont pas, enfin, qui restent transgressives pour certains et qui vont rester de l'ordre du fantasme.
Et puis des fantasmes qu'on n'atteint pas ou qu'on ne va pas atteindre ou qui peuvent être un but dans une vie.
Moi, en général, je distingue le fantasme du désir ou de l'envie. À mon avis, le fantasme, il est transgressif et peut rester surtout inassouvi. Ça peut être vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect et qui n'a pas vocation forcément à se réaliser.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et vous, c'est quoi votre kink? Quentin, par exemple, c'est ma mère.
Oh.
Mais on ne juge pas. On ne juge pas. On ne juge pas. Car c'est aujourd'hui la journée spéciale l'amour, le sexe et les Français.
On peut peut-être saluer
Manu. On salue ma maman, effectivement. On explore nos kinks avec la prof de domination Axelle de Sade qui vient de sortir justement Kink, manuel de sexualité créative aux éditions Anne Carrière. Axelle, quand vous entendez, on lit pas mal ça, pas mal d'études ces derniers temps, que les jeunes font moins l'amour aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous y croyez?
Alors, ça dépend hein, quand on dit faire l'amour. Parce
ce
que
qu'on
j'ai...
entend par là.
Voilà, ce qu'on entend par là, mais visiblement, ils le font mieux.
Ah, c'est-à-dire
Eh bien, il me semble qu'ils sortent justement de cette dimension pénétrative pour aller vers d'autres sexualités et aussi dans d'autres endroits. Enfin, il y a plein d'endroits, en fait, à Paris ou partout en France qui proposent des événements, des ateliers, des rencontres, etc. Et il me semble, en fait, que la jeune génération est d'autant plus attentive à cela. Et si on en croit aussi le nombre de comptes sur Insta qui forment à la sexualité créative, il me semble en fait qu'ils vont aller vers la chatouille, la lutte érotique, le
alors,
message.
Alors, j'arrête tout de suite parce que la chatouille, j'aimerais bien comprendre, parce que la chatouille, quand on rigole et qu'on essaie de faire l'amour, ça marche plus à un moment. La chatouille, si c'est trop bien fait qu'on rigole, ensuite on perd le côté érotique, non?
Mais c'est quoi faire l'amour pour toi, Nat?
Je ne sais pas.
Parce que, en fait, l'amour, c'est un acte qui commence dès que tu caresses quelqu'un.
Ah oui, mais alors on est dans le câlin.
Voilà,
alors,
ouais. Et la chatouille, en fait, c'est une forme de caresse qui amène l'autre au rire, mais qui peut aussi aller vers une forme de douce torture, parce que si on est attaché, etc., on peut...
Je suis juste pas allé assez loin. Je comprends ce que vous voulez. Je vous suis. Mais ce que vous dites est très vrai. D'après l'étude qui vient de paraître sur les Français et le sexe, on ferait moins souvent l'amour, mais nos pratiques se sont diversifiées. Donc c'est l'âge d'or des kinks.
Oui. Mais ce que je regrette, en fait, dans cette étude, c'est qu'on parle vraiment de la question pénétrative.
Ah, on reste bloqué là-dessus.
Mais oui, parce qu'en fait, il parle de la fellation, du cunnilingus, de la pénétration vaginale et de la pénétration anale. C'est tout. Donc on reste sur la question de la génitalité. Or, en fait, on oublie tous les fétichismes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et les gens qui sont adeptes d'autres touchés, en fait. C'est complètement oublié dans cette étude.
Vous parlez de donneur et de receveur dans votre petit manuel. C'est quoi un donneur? C'est quoi un receveur?
Alors, oui, je préfère parler de donneur et de receveur parce que ça enlève la dimension échange de pouvoir. Un qui va dominer avec le pouvoir et l'autre qui va subir. Je préfère la notion de donneur et receveur parce que la sexualité créative, c'est une danse à deux où l'un va initier un pas, donc le donneur, et le receveur va y répondre avec son corps, avec son souffle, avec ses mimiques, etc. Et c'est là où on va créer un cercle vertueux, en fait, où on va rentrer dans une transe érotique, sexuelle, voire génitale.
Et comment on parle de ces kinks à son partenaire? Vous parlez énormément de la communication dans votre livre. Comment on en parle?
Alors déjà, le premier conseil, c'est lentement. C'est-à-dire que révéler de but en blanc à quelqu'un qui n'est pas préparé...
Qu'on n'est pas un élève dans votre école et qu'on a appris tout plein de trucs et qu'on veut vite les mettre en pratique, c'est pas une bonne idée.
Non, il faut aller vraiment, vraiment doucement. D'ailleurs, il y a un film, La pianiste de Michael Haneke, qui est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, elle lui écrit une lettre en lui disant « Voilà, je voudrais être battue jusqu'au sang, etc. » Et en fait, le personnage est complètement...
Désemparé
par la proposition. Donc non, en parler lentement. Ensuite, on peut aussi passer par les vecteurs culturels comme les films qui se développent, il y en a de plus en plus, ou la littérature, ou des expositions, ce qui permet à l'autre, en fait, d'avoir peut-être une image différente de celle qu'il a dans sa tête. Et puis ensuite, créer un contexte qui permet d'en parler, donc parler doucement, lentement, de ce qu'on a envie.
Vous avez un film à recommander, par exemple? Pour les auditeurs qui nous écoutent, justement pour, je sais pas, essayer de parler de kink avec son partenaire. Mais ça dépend en fait
du
kink en question.
Alors ça dépend du kink en question, mais il y en a plein. D'ailleurs, on fait une liste assez exhaustive dans le livre. Mais moi, j'aime bien recommander, si on aime les pratiques SM, j'aime bien recommander le livre La Secrétaire, que je trouve intéressant. Si on est un peu plus sur les jeux sensuels et sensoriels, il y a 9 semaines et demie aussi qui est bien, même si il a vieilli. Vous avez aussi Short Bus, qui est un film canadien qui est quand même une référence en matière de sexe positif. My Wonder Woman, si on veut parler de polyamour. En fait, il y en a plein.
Les autres sont cités dans le livre.
Exactement.
Un gant de toilette, un paquet de coquillettes et le tour est joué. Nous expliquait Quentin, alors qu'on discutait de No King, qu'on lui avait rien demandé. Mais bon.
C'est faux.
Ce à quoi Cyril, pragmatique et chic, ajoutait « Oui, mais alors bien cuites les coquillettes, sinon al dente ça râpe. » Quentin, chaque après-midi, vous discutez avec les passants comme vous discutez avec nous, c'est-à-dire très librement.
Oui.
Déjà, Quentin, j'aimerais savoir si dans la rue, on avait la définition des kinks.
On essaye avec Chloé, qui plisse les yeux en regardant mon portable. Elle découvre le sujet qu'on aborde dans cette journée spéciale sexualité des Français sur Inter.
Avoir un kink, je suis vieille, non? Parce que je sais pas ce que c'est.
Vous avez quel âge?
J'ai 34 ans.
Vous êtes pas vieille?
C'est un peu mon kink, c'est un peu... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu... Ah, c'est un peu mon... comme mon péché mignon, enfin mon truc un peu... mon plaisir coquin, enfin, non?
Ouais, c'est ça! Apparu dans les années 60, ce mot d'origine anglo-saxonne est de plus en plus utilisé en français pour décrire les préférences de fantasmes, de comportements ou pratiques sexuelles qui sortent des normes. Vous avez appris un truc?
Bah ouais, je vais dire ça à mon mari, je vais lui demander s'il connaît. Tu sais ce que c'est le kink?
Alors justement, avec son mari, c'est quoi leur kink?
Moi je pense que c'est les massages. Avant. Mais on sait que ça va déraper, mais du coup c'est bien.
Il y a des accessoires?
Non.
Non, mais je parle d'une bougie, par exemple.
Non.
Vous massez comme ça, sans rien?
Ouais, ouais.
Vous n'avez pas une huile de massage?
Non.
Ah ouais, vous, c'est vraiment... C'est le prétexte, quoi.
Bah, c'est mon king, quoi, voilà, vous voyez.
Bon, on démarre soft, mais si on prend votre définition, on va ailleurs et on se masse, et donc ça rentre aussi dans la définition du kink, le massage. Mais il fallait bien commencer quelque part. Bon, ce monsieur ultra chic, manteau long, vert, foncé, chemise et pull en tricot, la paire de Ray-Ban aviateur fumé, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
On traverse ensemble?
Si vous voulez.
C'est vert en plus. Quel est votre prénom?
Philippe.
Philippe, vous avez quel âge?
Oh, je suis un très vieux monsieur, j'ai 68 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie là?
Rien, j'étais industriel auparavant.
Allez, on essaye avec Philippe.
Avoir un kink, what is this?
Je vous pose la question.
Ben non, je vous la renvoie. Oh ben tout le monde en a.
Des kinks?
Mais bien sûr, j'ose espérer.
C'est quoi vos kinks? Ou c'était quoi vos kinks?
Bah, c'est assez réservé, vous me plaît. Si je l'ai dit, je n'en ai plus à ce moment-là. Réfléchissez.
Oui, mais...
Non. C'est le sexe en groupe, on va dire. Voilà, voilà. Quelque chose qui me plaît.
Ah, voilà, on y vient. Le sexe en groupe, les partous, quoi. Ça rentre dans les kinks. D'ailleurs, il existe encore des établissements pour pratiquer.
Plein, mais il y en a énormément à Paris.
Je peux vous poser la question, est-ce qu'à 68 ans, on pratique encore ces kinks?
Mais bien sûr. J'ai la chance d'avoir encore des cheveux, je n'ai pas de ventre, et ça fonctionne très bien. Et tous les amis de mon âge n'ont pas ça. Ouais, je vous parle très franchement. C'est une chance, mais je pense que ça peut s'arrêter d'une minute à l'autre. C'est pour ça que je me goinfre.
Bon appétit.
Ben merci.
Voilà, je laisse ce goinfre de 68 ans qui, malgré tout, et avec sa forme, donne quand même espoir, je l'avoue. Je traverse et je rencontre des plus jeunes, Liam et son pote Pierre, qui a un cocard sous l'œil droit. Vous êtes tombé, vous?
Non, pas du tout, je fais du MMA. Avant un kink. Ouais, c'est... T'es une sorte de fantasme un peu, hein.
C'est quoi vos kinks, les gars?
Je sais pas, comme ça, là
Bah oui, comme ça, là, je les sens plus gênés que leur aîné Philippe et de son plaisir à pratiquer le sexe en groupe, par exemple.
Non, déjà, une, c'est beaucoup. Je sais pas si je pourrais en gérer deux.
Avec les watts, mec. Ouais, j'avoue, je sais pas, peut-être à la limite un peu de hard de temps en temps, ça dépend, je trouve c'est bien d'alterner les deux. On reste quand même sur du truc gentil, ça peut être tirer les cheveux, des fessées.
Ouais, à la limite, le SM est très basique.
Ouais, c'est ça.
Mais
ouais.
Alors pourquoi, selon eux, cette violence soft, c'est devenu un king de leur génération?
Je sais pas, je pense qu'on a été habitué avec la pornographie et tout, donc ça peut peut-être aussi, ça a peut-être changé notre perception de la sexualité aussi, donc peut-être ça vient de là aussi.
Ou d'un interdit juste. Genre, c'est une chose qu'on peut pas faire dans la vie de tous les jours, donc...
Mettre des fessées aux gens, oui, non, c'est...
Bah, même un peu de violence... encadré, à part se taper dessus au MMA.
On y revient, ton king en fait.
C'est ça en fait, j'adore. Étranglement et tout là, pendant la lutte.
Je me rends compte qu'en creusant, j'ai beaucoup plus de réponses d'hommes dans la rue. Mmh. Alors ma dernière rencontre, c'est Delphine et ses potes en master qui sortent de cours.
Avoir un king.
Non mais oui, non mais les hommes, c'est vrai qu'ils ont plus de facilité à parler de ça, à donner leurs fantasmes, limite ils sont fiers quoi. Nous, c'est un peu plus tabou. Dans le sens où nous, on va peut-être plus nous juger justement quand on va parler de ça, plutôt qu'un homme.
Clairement, il y a peut-être même une prise de risque à aborder la sexualité en société lorsqu'on est une femme, sauf peut-être entre femmes. Comme Delphine ne sait pas quoi me répondre, je lui montre le dossier de préparation de l'émission, préparé par notre stagiaire Valentin. Bon, les pages collent un peu, mais bon, je trouve... Je trouve le hate fuck, aimer coucher avec des gens qu'on n'aime pas.
Mais alors, ouais, ça c'est dingue, ça c'est excellent. Mais c'est excellent, en vrai. Tu couches avec quelqu'un que t'aimes pas. C'est un peu ça, l'amour et la haine. La haine attire l'amour attire la haine.
Ah, ça pourrait être votre kink un peu.
C'est un peu ça, ouais. Oui, c'est bon, on l'a trouvé. Je sais pas, les gens avec qui je travaille, mais que je déteste. C'est-à-dire que cette personne, je l'aime pas, mais dans un lit, pourquoi pas au final. C'est un peu sadomaso, quoi. Mais ouais.
La fine frontière entre la haine et l'amour, la violence soft qu'on s'autorise dans l'intimité comme un exutoire, ainsi se termine le kink complètement à la rue, olé olé.
Rarement un micro-trottoir aura ouvert autant de possibilités.
C'est vrai.
Là, je vois les choses très différemment. Je vois mes collègues différemment.
Ah oui mais...
Ah bah oui, Axel de Sade, quel est...
Je déteste Cyril. Donc
c'est quoi, cette histoire? Vous devez connaître, vous êtes une spécialiste, le hate fuck. On fait l'amour avec des gens qu'on n'aime pas?
Ah non, mais je viens de le découvrir.
Ah,
en fait.
Vous rassurez un petit peu quand même.
Les stagiaires, ils ont
mais
bossé.
Mais ça vous inspire quoi? Comment vous l'analysez? C'est étonnant comme pratique. C'est un kink aussi?
Bah visiblement. Ouais. Donc coucher avec quelqu'un qu'on n'aime pas du tout.
Vous trouvez ça intéressant?
Je sais pas, je reste abasourdie en fait.
Ah bah nous aussi.
On l'a entendu dans le micro-trottoir. Est-ce que le porno en libre accès partout change nos kinks? Ou les accentue peut-être?
Alors je sais pas s'il les change. Mmh. En tout cas, il y a une éducation au porno. Qu'on peut regretter, parce qu'on est vraiment dans une dimension performative du sexe, et qui repose en fait sur une trilogie préliminaire, donc cunnilingus, pénétration, et ensuite éjaculation. Ce qui laisse très peu de place en fait à d'autres choses, enfin en tout cas à ce que j'aime faire moi, c'est à savoir mettre le cerveau en branle. Et alors je suis pas sûre hein, que ça ouvre les kinks. En tout cas, il y a une forme de violence, en tout cas, qui se met en place. Et malheureusement, le porno, il y en a certains qui sont alternatifs et qui changent en fait la représentation qu'on se fait de la sexualité. Mais
le porno éthique. On appelle éthique.
Ouais, ce qu'on pourrait appeler éthique, mais en tout cas qui aborde une autre forme de fantasme. Nikita Bellucci, Eric Alust ou Carré Rose, qui propose une autre représentation de la sexualité que je trouve assez intéressant. Mais ce qu'on peut regretter, et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert une école, c'est qu'il n'y a pas de lieu où on peut concrètement en fait apprendre la gestuelle érotique, sexuelle et génitale.
Je vous ai vu sourire en écoutant les rencontres et je suis obligé de vous poser la question sur Philippe. Les kinks n'ont pas d'âge. Quel est votre plus vieil élève, par exemple?
Mon plus vieil élève, j'en sais rien, il doit avoir 65.
Ouais, l'âge de Philippe. Donc ça n'a pas d'âge.
Non, mais ça n'a pas d'âge. Et il paraît d'ailleurs que dans les maisons de retraite, etc., il se passe plein de choses. Hein. Bon, ma grand-mère, elle a 95 ans. Et elle a retrouvé un amoureux qui a 60 ans.
Oh ah, ouais, ah ouais, pas mal.
Ouais.
Bah, l'étude dont on parlait tout à l'heure dit qu'on fait l'amour de plus en plus tard, d'ailleurs. Donc ça, c'est encourageant.
Ouais, je crois que les gens se l'autorisent. Ou alors, on ose le regarder, en fait. Hein.
Oui, oui, c'est ça.
Zoom Zoom Zen, journée spéciale, l'amour, le sexe et les Français. Sur France Inter.
Eh oui, moins 30% sur la première séance et deux pinces à tétons offertes. Voilà ce qui attend celui ou celle qui remportera le quiz. Aujourd'hui, on va évidemment jouer avec les pratiques sexuelles les plus insolites. Et c'est normal, 7 points de pénalité sont appliqués à Manon, sans quoi ce serait trop facile. Jouons au Zoom Zoom Test.
Je me retrouvais avec les moins 30, moi.
On l'a dit, tous les kinks sont dans la nature, mais certains sont plus rares que d'autres et peuvent précipiter des fins de carrière comme celle de Cyril Lacarrière, au FBI. Nous sommes en août 2006 dans un du Montana où Cyril, très marqué par la sortie du film Le Secret de Brokeback Mountain, a invité son nouveau partenaire, l'agent Mitchell, afin qu'ils regardent ensemble le DVD et qu'ils apprennent à mieux se connaître. Tout se passe bien jusqu'à ce que Cyril propose à Mitch un pony play.
Oh là
D'après
là.
Vous, Manon Quentin, qu'est-ce que le pony play? Un rituel originaire du Midwest qui consiste à atteler son partenaire comme on attelle un cheval avec sel et œillères. Un rituel originaire du Montana qui consiste à dominer son partenaire en le tenant par sa queue de cheval. Ou un rituel originaire de Étienne Bertin qu'on n'a pas le droit de décrire en détail à la radio mais qui implique un poney.
Je suis devant,
je ne sais pas, mais en tout cas c'est Quentin qui remporte le point. Oui, atteler son partenaire pour mieux le dominer, le pony play n'avait pas plu à Mitch qui avait dénoncé Cyril à son supérieur. Fucking Puritans, s'exclamera Cyril en rentrant la tête basse à Ponto Combo. Mais encore une chance qu'il ait laissé repartir, car s'ils avaient découvert son autre kink, ils l'auraient probablement grillé sur la chaise électrique. Manon, Quentin, attention, ce qui suit est très choquant. Selon vous, en quoi consiste ce kink qui, pour le coup, on ne peut considérer que comme une perversion? L'holophilie. Ça va vraiment très loin. Est-ce que c'est le fait de prendre son pied avec une personne surnommée Lolo?
Non.
Avec une bouteille d'eau ou avec une flûte de pan?
C'est.
Ça concerne Cyril toujours.
Une bouteille d'eau. Qu'est-ce que vous faites avec la bouteille d'eau exactement?
Je ne sais pas.
La buvez pas, quoi. D'accord. C'est une bonne réponse de Quentin, lui. C'était la réponse C. Malheureusement, c'est la bonne réponse. L'holophilie désigne l'excitation sexuelle provoquée par les flûtes. À ne pas confondre avec l'allumphilie, qui, elle, consiste à éprouver du désir à la vue de l'ail. Des kinks qui peuvent, hélas, se combiner puisque Cyril adore écouter U2 à la flûte tout en dégustant un aïoli à même le sif de son partenaire. Bon appétit si vous avez entamé le goûter. Non, en ce moment, pour le 4h, nous, on est très pims framboise. En ce moment,
ouais,
seulement, comme il y a quand même déviants dans notre équipe, on ne fait pas que les manger. D'après vous, sachant que Ghislain Fontana, notre réalisateur, a publié la vidéo sur son OnlyFans, qu'est-ce qu'on fait ici, dans cette équipe, avec les pimps? On les suce parce qu'on est des socs fétichistes? On les sniffe parce qu'on est des marimonikichistes? Ou on les écrase parce qu'on est des crush fétichistes?
C'est
allé très vite, j'ai l'impression que vous pratiquez maintenant. Oui, le crush fétiche, un kink assez polémique puisque ses adeptes prennent un pied fou en écrasant certes des objets, des biscuits, mais aussi des insectes, voire carrément des petits animaux. Au revoir Auguste, le petit chat de notre rédacteur en chef adjoint. Pierre Courade. Pendant que Pierre Courade se remet de la perte de son chat sacrifié sur l'autel du vice, je vous propose de découvrir le king de Quentin, qui après une dure journée de labeur, aime s'adonner à son fantasme préféré, se mettre à quatre pattes devant la télé afin que sa copine utilise son dos comme une table basse sur laquelle elle va dîner. On avait dit qu'on ne jugeait pas. Ce king existe, d'après vous, quel est son nom?
Il y a une nappe ou pas?
La tablophilie, pas de nappe, c'est vous le tac. Tablophilie, la table bassophilie ou la fornophilie?
C'est... Quoi?
C'est Manon.
J'ai dit c'est.
Bonne réponse de Manon qui est allée plus vite, ça a fusé.
Fornophilie.
Bah oui.
J'aime quand tu manges tes carbos sur mon dos, bébé. La fornophilie, également appelée objectification, est une pratique consistant à se servir de son partenaire comme d'un meuble, lampe, table basse, bureau ou même toilette. Encore une belle soirée en perspective chez les loups.
Ouais, ça va.
Enfin, attention, top, top. Vous le savez, Manon a été très marquée par son séjour en Corée du Sud l'été dernier. Elle avait déjà pas mal de vices avant, mais elle en a ramené un de plus dans ses valises. Un kink qui est une variante du célèbre Dork Snob Shoujo, une tendance qui nous vient du Japon, que les Coréens ont légèrement twisté. D'après vous, en quoi consiste ce kink venu d'Asie? Prendre du plaisir en léchant une rampe d'escalier? Prendre du plaisir en léchant la lunette des chiottes? Ou prendre du plaisir en léchant les Birkenstock de Ghislain Fontana?
J'ai crié.
Peut-être pas la lunette. La rampe.
Je pense que ça doit être sale.
Ça doit exister, la rampe.
Les feux de la rampe, ça vous intéresse?
Je pense que la rampe, c'est le...
Bonne réponse de Quentin. Bonne réponse de Quentin. Léchons les rampes d'escalier. Un king validé par Marie-Monique Robin qui nous invitait même à lécher la barre dans le métro.
Souvenez-vous. Oui, c'est vrai.
Le Dork Snob Shoujo, c'est, soyons précis, le plaisir de se faire prendre en photo pendant qu'on lèche une poignée de porte en prenant une pose lascive. Les photos existent. Elles sont malheureusement dans un sous-dossier caché de l'iPhone de la Marianoche. Il faut Face ID pour y accéder. Victoire de Quentin, lui.
Forcément.
Non, la main, maintenant.
2 à moins 4.
Voilà. Ouais, forcément. J'étais à moins 7.
Mais vous auriez dû refaire votre retard. Vous auriez dû. À l'occasion de la journée spéciale L'amour, le sexe et les Français, on zoome cet après-midi sur vos kinks, les petits beaux petits plaisirs sexuels, avec la maîtresse dominatrice de Cyril Lacarrière, Axel de Sade, qui publie justement Kink, manuel de sexualité créative aux éditions Anne Carrière. Axel, ma question peut paraître un peu bizarre, mais est-ce qu'on peut avoir un kink sans participer activement à un acte sexuel ou n'importe quelle pratique sexuelle? Par exemple, est-ce que le voyeurisme, c'est un kink?
Oui.
Ah. Point barre.
Oui, oui.
C'est pas très actif.
Non, c'est pas très actif. Mais par exemple, le fétichisme aussi des chaussures, vous voyez? Où là, c'est beaucoup plus actif, ok, d'accord, mais où la génitalité n'est pas engagée.
C'est sûr.
Mais il y a plein de... Enfin, la fornophilie aussi.
La fornophilie dont on vient de parler, oui, ça c'est vrai que ça m'a vraiment étonné. Je connais personne qui est... Dans votre école, il y a un atelier fornophilie?
Exactement.
Ah oui?
Oui.
Alors, bah, et même dans le livre, il y a une interview de Sacha Bellamy, qui est le pape de la fornifilie en France.
Le pape de la fornifilie.
Devenir un meuble.
Mais ça, c'est votre truc à vous. Comme
mais
ça.
C'est assez intéressant, en fait, le meuble. Hein, parce que c'est vrai, les kinks, tels que vous les décrivez, comme ça, ça a l'air assez surprenant. Et même, on se dit, mais que se passe-t-il dans leur tête? Mais après, quand on comprend, en fait, la psychologie, et quand on s'essaye à ça, on peut comprendre. Et la fornifilie, en fait, ce qui est intéressant, certes, on est devenu un meuble, on va être abandonné pendant quelques temps, et on va rentrer dans un état méditatif. Et après, quand le meuble va être utilisé quand on va poser, je sais pas moi, une tasse de café ou une assiette, etc. Bah, le corps en fait se réveille parce que pendant quelques temps justement il a été délaissé. Et donc c'est vraiment des choses assez subtiles qui viennent parler au cerveau.
Il y a un chapitre sur les sens dans votre livre, une odeur particulière, ça peut exciter aussi, ça peut être un kink.
Oui.
N'importe quoi comme odeur.
Tout dépend de ce que vous aimez, Manon.
Mais qu'est-ce qui revient quand on vous en parle?
Sur les odeurs, c'est souvent les odeurs corporelles.
Donc, transpiration.
La transpiration, les odeurs de pied, les odeurs intimes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va exciter quelqu'un, en fait, qui va provoquer une excitation. Mais en fait, les sens sont stimulés plus globalement. Ça peut être aussi regarder, enfin, le toucher une matière. Ça peut être regarder, je sais pas moi, quelqu'un qui porte des sous-vêtements, etc. Donc en fait, le kink, c'est vraiment un stimuli qui va provoquer une excitation sexuelle. Un stimuli, donc une évocation des sens. Quoi.
Vous consacrez tout un chapitre au jeu de rôle, qui n'a pas joué au docteur une fois dans sa vie. Le scénario peut être plus précis, vous en listez quelques-uns. Le dentiste sadique, le génico-vicieux, le psychiatre retors. Mais votre préféré, c'est le médecin légiste nécrophile.
Oui.
Vous pouvez nous expliquer, vous expliquer sans être trop cru.
Ça va être dur.
Non. Mais alors oui, j'aime beaucoup ce kink-là parce que, ce fantasme-là parce qu'il demande vraiment énormément de mise en scène. Donc déjà, moi, j'ai une housse mortuaire. On peut trouver des housses mortuaires assez facilement. Et je vais passer une musique qui est le Shepard Tone, qui est une musique très lancinante et qui revient et qui rend un peu dingue d'ailleurs. Et je vais avoir juste une lumière, une lampe de poche au-dessus de la housse mortuaire. Je demandais à la personne en fait de se déshabiller et d'intégrer la housse mortuaire, et en fait la personne va être inerte et moi je vais donc être le médecin légiste. Et je vais donc, par exemple, m'assurer que la personne est bien morte, donc en jouant avec la peau, par exemple en la mordillant un peu, ou en passant une roue de Wittenberg, etc. Et puis après, évidemment, il suffit de dérouler, quand on parle d'autopsie, qu'est-ce qu'on peut faire avec un corps? On peut essayer de trouver en fait des pratiques.
Alors vous n'utilisez pas le scalpel quand même?
Non. Mais je pourrais.
Oh mon Dieu.
Est-ce que c'est important d'avoir un safe word quand on pratique un kink?
C'est même, je dirais, quasiment obligatoire, en fait. Parce que, certes, on a une discussion au préalable de ce qui est OK, pas OK, les envies, les désirs, les limites, etc. Mais il faut s'assurer du consentement à tout moment quand on est en train de jouer. Et donc on va utiliser soit des mots de sécurité, soit des gestes de sécurité qu'on aura définis avant, qui permettent en fait de dire à l'autre stop, on s'arrête parce que la pratique me convient pas, ou stop, on s'arrête parce que le moment qu'on est en train de passer me convient pas.
Alors merci, vous écoutez France Inter, je sais pas pourquoi je vous dis merci parce qu'on est toujours avec vous. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Je sens que le thème de cette émission me trouble un peu, Manon.
Oui, Mathieu.
On est déjà allé très très loin, mais on va aller encore plus loin avec vous, Manon, puisque c'est l'heure de la personne à suivre.
Je vous présente Vex Ashley. Elle a une trentaine d'années, elle est anglaise et c'est une personnalité très influente dans le domaine de la pornographie indépendante et alternative. Elle a notamment créé sa propre maison de production, Four Chambers, car elle avait envie de voir la sexualité traitée avec la même profondeur et la même attention que l'art. Du coup, elle réalise et met en scène des œuvres qui combinent performance explicite et esthétique cinématographique. cinématographique élaborée. Ces films sont souvent comparés à des œuvres de cinéma, d'art et d'essai, flirtant avec les frontières entre le documentaire, la performance et la fiction. Je suis allée voir des teasers sur son site et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très conceptuel. Elle joue notamment avec des kinks un peu tabous. Elle a par exemple fait des vidéos intitulées « Maman » en surfant sur la tendance du « mommy kink », autrement dit le fait que la femme traite son partenaire comme un enfant au lit. Elle joue aussi avec le fétichisme du sang, le blood play, une pratique BDSM qui consiste à faire saigner l'autre. Vex Ashley n'a pas trop de limites, au contraire, sur son Instagram, elle a même fait une boîte à questions où chacun lui raconte son kink et elle leur dit si elle l'a déjà fait ou pas, se déguiser en chat, cracher, les jeux à manger, je vous dis les plus soft, mais vous avez l'idée. Son travail va évidemment plus loin que mettre en scène des kinks, car elle y aborde aussi des thèmes comme l'aliénation, la découverte de soi et la fluidité des identités sexuelles et des genres. D'ailleurs, tous les types de sexualité sont représentés, pareil pour les corps, pareil pour les peaux. Et puis Vex Ashley a des positions très féministes concernant l'industrie traditionnelle de la pornographie. Elle plaide pour une approche plus éthique, centrée sur le bien-être des performeurs et la transparence des processus de création. Dans ces films, les participants et participantes sont impliqués dans le processus créatif et aident à la conception des récits. Pas besoin de coordinateurs d'intimité spécifiques, Vex Ashley le fait elle-même. Alors effectivement, pour savourer son travail, il faut entrer dans son univers BDSM gothique qui peut prendre un peu de cours, mais ça fait aussi du bien de voir qu'il y a autre chose que Pornhub et une autre façon de mettre en scène les femmes. Elle ne veut plus justement que la femme se soumette au désir de l'homme et qu'elle soit réduite à un simple objet sexuel. Pour elle, le porno n'est pas ce qui est le plus excitant et elle le montre avec ses films aux esthétiques aussi belles que bandantes.
Merci Manon pour cette belle conclusion. Axel de Sade, est-ce que ces nouveaux visages plus féministes dans l'industrie qui a longtemps été hyper macho du porno, c'est, j'imagine, une bonne chose? Plus on voit de choses différentes, plus ça peut aider les gens à trouver leur kink et à se réinventer?
Oui, je crois. Et surtout, je pense que les femmes, maintenant, commencent à travailler leur imaginaire érotique, à se poser des questions, à chercher aussi d'autres imageries, de sortir du porno mainstream. Et c'est pour ça que, moi, dans l'école, il y a 80% de femmes, mais qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent, en fait, à leur sexualité et qui ont besoin, en fait, de se connaître et de aussi partager ça avec l'autre.
Il manque plus que les hommes, quoi, qui se rendent compte qu'ils ont des trucs à apprendre et à se découvrir eux-mêmes.
Non, les hommes, c'est autre chose. C'est-à-dire que eux, pour certains, ils sont enfermés dans ce qu'on attend d'un homme, à savoir donc quelqu'un qui va pénétrer, qui va avoir une érection et qui va prendre en charge la relation. Et ça, pour eux, ça peut être très sclérosant et ils sont à la recherche, en fait, de se délivrer de ces injonctions performatives.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Mon père, j'ai péché. Allons bon, frère Courade, que se passe-t-il? Vous avez encore allumé un cierge sans payer? Non, pire, mon père, j'ai un kink. C'est une maladie? Oui, quasiment, c'est une perversion sexuelle. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai allumé la lumière pour faire l'amour. De l'autre côté du confessionnal, l'abbé Chibrard venait de s'évanouir. Bonjour Pierre Courade.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ah mon enfant. Pierre, chaque jour vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et notre invité nous a parlé des jeux de rôle parmi les kinks préférés des Français. Je vous soupçonne Mathieu d'avoir un petit faible pour le côté confessionnal, cierge et encensoir. Surtout quand vous prononcez avec gourmandise le nom de l'abbé Chibrard, paix à son âme. Généralement un kink ne s'exprime pas aussi ouvertement dans la vie publique. Hein. C'est notre petit jardin secret, c'est ce que nous a expliqué notre invité Axel de Sade, un pseudo très certain. Dominatrice professionnelle, vous enseignez aussi les techniques de BDSM, c'est Quentin qui nous l'a rappelé en préparant cette émission. Des kinks, il en existe presque autant qu'il existe des êtres sexués, il suffit de sortir de la norme traditionnelle. Il y a probablement quelqu'un dans le monde dont le kink est de faire l'amour sur un album des Kinks, ou de faire l'amour à un album des Kinks. L'essentiel, c'est que les deux partenaires soient d'accord sur les règles du jeu, c'est tout le but de votre livre. Hein. Un manuel véritable de prévention et d'amusement entre adultes consentants, très important le consentement, jusqu'au safe word, un mot qui met un terme à l'activité sexuelle. Il faut s'accorder en amont sur le mot que l'on utilise. Crier Siri la carrière peut par exemple prêter à confusion. Et puis il y a des objets, ça peut aller jusqu'au meuble. Tous les kinks sont dans la nature, c'est ce que nous disait, et c'est ce que disait surtout Manon tout à l'heure à sa table basse, aka son compagnon.
Tout simplement. Merci bien, Mathieu. C'était très bien ce résumé.
Ah, mais il a fallu que je mette le holà.
Ah, oh, bah. Vous avez dû intervenir, oui, vous l'avez censuré.
Tout est barré.
Merci Pierre Courade. Karim Duval est avec nous et on voulait absolument le faire parler de kink et de soumission sexuelle, lui qui s'oblige à ne faire que des blagues au-dessus de la ceinture.
Et encore, je porte la ceinture au niveau de la poitrine. Oui, Axel de Sade, ceci est une ceinture. C'est un objet qui peut servir à autre chose que fouetter quelqu'un, comme par exemple faire tenir un pantalon ou des pectoraux trop flasques. Donc, n'empêche que j'ai adoré l'exercice. Hein. J'aime mettre pieds et poings liés, hein. Faire une chronique sur le kink. Quand tu pratiques l'humour prude, c'est une contrainte. Or, être sous la contrainte ouvre une infinité de possibilités, n'est-ce pas, Axel? Moi, je dis, on va trouver un terrain d'entente. En plus, comme moi, dans une autre vie, vous avez été cadre dans une entreprise. Hein. Vous étiez lobbyiste. Hein. Et j'imagine que vos premiers clients en tant que dominatrice, c'était des gens dont vous défendiez les lobbies, hein, des mecs de Monsanto, hein, qui vous disaient « Asperge-moi de Roundup comme un concombre d'Espagne. Oins-moi le corps de glyphosate. Humilie-moi. Oui, je suis un étron, une chiure, un excrément. Je pourrais servir d'engrais naturel. Oh, naturel, ça me dégoûte. Mais l'insulte m'excite. » Notez l'usage du verbe « oindre » dans la réplique qui précède. Hein, le verbe « oindre », c'est comme le martinet, on ne s'en sert pas tous les jours. Hein, moi, je suis un peu un kink des mots. Hein. D'ailleurs, le kink m'a ouvert à tout un vocabulaire. Hein. Je ne dis plus une paupiette, mais un bondage de veau. Depuis que je sais qu'un munch est un rendez-vous d'adeptes de la soumission qui peut mener à des jeux coquins, je ne sers plus de monster munch à mes enfants. Les cacahuètes, c'est très bien. Et à force, je me suis rendu compte que tout ce jargon n'est pas si éloigné du langage corporate que j'aime moquer dans mes sketchs. Ah ben, en comité de pilotage, tu sors pour le prochain des BDSM Agile, on a fait un dirty talk et vu le nombre d'IST qu'on a dans le pipe, on s'est dit que c'était plus safe de faire du dry humping. Ouais, target Q2, Q3, ça fait sens. Bah, tu te fais débaucher par McKinsey. Hein. Ah ben, les mecs savent pas ce qu'ils racontent. Et puis dans cette logique, je me suis dit, Axel de Sade est dominatrice professionnelle. Or, sur quel réseau social on trouve des gens qui pratiquent la domination à un niveau professionnel? Sur LinkedIn. Bah oui, les petits chefs, les managers toxiques, les pervers narcissiques. Hein, raison pour laquelle, Axel de Sade, je vous propose de créer un réseau social ensemble, Kinkedin. Hein, ouais, j'en ai plein hein, comme ça. Hein, là, vous parliez de Fornifélie, il y a Kinké, bref. Capitalisons sur votre approche anti-verticale du management pour créer Kinkedin, un réseau social interne à chaque boîte qui aide tous ces petits patrons dominants à trouver un inférieur hiérarchique qui les domine. Un Kinkedin permettra à ce petit manager péteux de dire à un stagiaire « Fais-moi faire un café, Noé, un café serré, un café frappé, un café fouetté, un café claqué au sol. Oh, que c'est bon de parler comme un jeune hein, !» Kinkedin sera une aubaine pour Pierre-Édouard Sternin de la Galtière, PDG de père en fils sur 12 générations grâce à une boîte qui prospère dans la depuis la traite négrière, hein, la traite des esclaves, hein, une sorte de BDSM sans le M. Hein, il serait là, parlez-moi d'égalité des chances, Babacar. Hein, traînez-moi sur la trace de mes ancêtres à Nantes. En plus, Karine Duval y joue le 21 décembre son spectacle et vantez-y la qualité de mes dents. Hein, grâce à Kinkedin, un manager toxique pourra supplier sa subalterne. Fais-moi rédiger un rapport de 50 pages et ne le lis pas. Réduis-moi à l'état d'objet. Mes actionnaires le font déjà, mais je veux que ce soit toi, Amandine. Pousse-moi au burn-out, Amandine. Bref, comme vous le faites, Axel, Kinkedin offrira un espace d'expression de la vulnérabilité. Cette vulnérabilité taboue qui, dans la vraie vie, se mue en excès de confiance, de puissance, de vitesse. Et la pointe de votre fouet est là pour le rappeler. Pour le rappeler, parce que passer une certaine vitesse, au-delà du mur du son, on claque.
Merci Karim. Jamy Duval, pour ce début d'explication du claquement de fouet, on aurait aimé recevoir quelques claquements de plus, je crois. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom. Et puis vous l'avez dit.
J'aimerais qu'on rétablisse quelque chose.
Qu'est-ce que vous voulez rétablir?
Je cours ici, voilà.
Mais non, ça dans l'émission, non, vos paniques sont longues.
C'est long,
mais... Je rappelle, Karim, pour vos fans, que vous jouerez à Nantes bientôt, parce que vous ne l'avez pas suffisamment dit dans la chronique.
Le 21.
Exactement, le 21, votre spectacle Entropie. Merci beaucoup, Axel de Sade, de nous avoir appris un mot, parce que hein, autour de cette table, je pense qu'on a été nombreux à l'apprendre, ce mot kink. Oh, ça va, Manon? Toujours faire genre.
C'est moi qui l'ai proposé à la réunion.
Alors, mais ça m'étonne pas, Manon, que toi tu le.
Ah oui, bien sûr, je connaissais.
Tu connaissais ce mot et pas les autres.
Voilà, c'est surtout ça.
C'est la sororité.
Oui. Exactement.
Oui. Merci encore, Axel. Et je rappelle votre livre Kink, manuel de sexualité créative. C'est publié chez Anne Carrière et c'est le cadeau idéal à mettre au pied du sapin pour ceux qui, comme moi, sont férus de soirée. Olé, olé. Zoom, zoom, zen.